Chapitre 21. Les Oswald devinrent mes voisins du dessus le 2 mars 1963. De leur cube de briques croulant d'Elbeth Street, ils transportèrent leurs biens à la main, principalement dans des cartons d'alcool et spiritueux de récup. Bientôt, les bandes du magnéto japonais se mirent à tourner avec une régularité quotidienne. Mais je me servais surtout de mes écouteurs. Ainsi, les conversations qui se déroulaient à l'étage gardaient-elles une cadence normale et non ralentie, ce qui évidemment n'empêchait pas que je n'en comprenne pas grand-chose. La semaine qui suivit l'emménagement des Oswald dans leur nouveau palace, je me suis rendu chez l'un des prêteurs sur gage de Greenville Avenue pour y acheter une arme à feu. Le premier revolver que le type me montra était le même Colt 38 que celui que j'avais acheté à Derry.
Oh, « excellente protection contre les agressions et les cambriolages !» m'assura le prêteur sur gage. « Précision mortelle jusqu'à 20 mètres !»«
15 » l'ai-je corrigé. « 15 à ce qu'on m'a dit. » Le vautour dressa les sourcils.
« Soit, disons 15. Mais celui qui serait assez stupide !»«
Non, qui aurait la bêtise de m'agresser pour me dévaliser, se trouverait forcément beaucoup plus près que ça. C'est ça la répartie exacte. »
Pour vous tomber sur le poil, serait pas loin loin non plus. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
Mon premier réflexe, juste pour rompre cette impression de carillon harmonique légèrement discordant, fut de vouloir lui dire que je préférais autre chose, peut-être un calibre 45. Mais briser l'harmonie risquait d'être une mauvaise idée. Comment savoir ? Ce que je savais, c'était que le police 38 spécial que j'avais acheté à Derry avait fait son boulot.
« Combien ?»« Je vous le laisse pour 12. »
Ça faisait 2 $ de plus que ce que j'avais payé à Derry. Mais évidemment, 4 ans et demi avaient passé depuis. Rapporté à l'inflation, 12 me parut assez correct. Je lui ai dit d'ajouter une boîte de munitions et le tour était joué. Quand le type m'a vu ranger le pistolet et les balles dans la sacoche que j'avais apportée à cet effet, il m'a dit
« Pourquoi vous ne me demandez pas de vous vendre un étui, fils ? Vous n'avez pas l'air du pays. Sinon, vous sauriez qu'au Texas, vous avez le droit de le porter sur vous, pas besoin de permis, du moment que vous n'avez pas de casier judiciaire. Vous avez un casier ?
Non. Mais je ne m'attends pas à être agressé en plein jour. » Le vautour me gratifia d'un sourire sans joie.
« Dans Greenville Avenue, on peut jurer de rien. Il y a quelques années, un type s'est fait sauter le caisson à moins de 2 rues d'ici. »«
Ah oui ?»«
Oui, monsieur, juste devant ce bar, la Rose du désert qu'il s'appelle. À cause d'une femme, naturliche.
Ça vous embouche un coin, pas vrai ?»«
Sans doute que oui, » j'ai répondu. Même si des fois, le motif est plus politique.
Non. Dans le fond, c'est toujours à cause d'une femme, fils.
J'avais trouvé à me garer 4 rues à l'ouest de Greenville. Et pour retourner à ma nouvelle bagnole, nouvelle pour moi en tout cas, j'ai dû passer devant chez Faith Financial, où j'avais misé sur les Pirates à l'automne 1960. Le type qui m'avait payé mes 1 200 billets était posté devant l'entrée, en train de fumer sa clope. Il était coiffé de sa visière verte. Ses yeux m'ont survolé sans paraître me reconnaître, ni exprimer un quelconque intérêt. C'était vendredi après-midi, et de Greenville Avenue, je me suis rendu directement à Kylene retrouver Sadie au bungalow Candlewood. Nous y avons passé la nuit, comme ce fut notre habitude tout cet hiver-là. Le lendemain, elle est retournée en voiture à Jody, où je suis allé la retrouver le dimanche matin à l'église. Après la bénédiction, au moment où nous échangions des poignées de main fraternelles avec les autres paroissiens en disant « Que la paix soit avec vous !» mes pensées se sont tournées, avec gêne, vers le revolver désormais entreposé dans le coffre de ma voiture. Pendant le déjeuner dominical, Sadie m'a demandé « Encore combien de temps avant que tu fasses ce que tu as à faire ?
Un tout petit peu plus d'un mois, si tout se passe comme je l'espère.
Et sinon ?
Des deux mains, j'ai ratissé ma tignasse en arrière et je suis allé me poster à la fenêtre. Sinon, je sais pas.
T'as autre chose en tête ?
Oui,
répondit-elle d'un ton calme. Il y a du fondant pour le dessert.
Est-ce que tu veux de la crème chantilly sur le tien ?
Avec plaisir, j'ai dit. Je t'aime, ma pépette.
T'as intérêt,
a-t-elle répliqué en se levant pour aller chercher le dessert.
Parce que je prends un gros, gros risque, là.
Je suis resté à la fenêtre. Une voiture descendait lentement la rue.
Antique, mais mythique, comme disaient les DJ sur K-Life.
Et de nouveau, j'ai perçu ce carillon harmonique. Mais je le percevais tout le temps maintenant, et parfois il ne voulait rien dire. L'un des slogans de Christie, des AA, m'est revenu à l'esprit. Peur, pour perception erronée d'unité du réel. Cette fois, cependant, le processus des associations d'idées s'est enclenché. La voiture était une Plymouth Fury bicolore blanc sur rouge, comme celle garée à proximité du séchoir sur le parking de la filature de la Warrombo, là où le terrier débouchait en 1958. Je me suis souvenu que j'avais tapoté le coffre au passage afin de m'assurer de sa réalité. Celle-ci avait une plaque d'immatriculation de l'Arkansas et non du Maine. Mais néanmoins, ce carillon harmonique. Parfois, il me semblait que si j'avais compris ce que signifiait ce carillon, j'aurais tout compris. Probablement stupide, mais vrai.
Carton jaune le savait, j'ai pensé. Il le savait, et ça l'a tué.
Ma toute dernière harmonique clignota à gauche, tourna au stop et disparut en direction de Main Street.
« Viens donc manger le dessert !»
a dit Sadie derrière moi, et j'ai sursauté. Les AA disent que peur signifie aussi autre chose, tout plaqué en urgence. En rentrant à Neely Street ce soir-là, j'ai mis mes écouteurs pour écouter mon dernier enregistrement. Je ne m'attendais à rien d'autre que du russe, mais cette fois, j'ai eu droit aussi à de l'anglais et à des bruits d'éclaboussures. Marina en russe. Lee.
Peux pas, maman. Je suis dans la baignoire avec Junie.
Encore des éclaboussures et des rires. Celui de Lee et le roucoulement aigu du bébé. Lee.
Maman, il y a de l'eau partout par terre. Junie éclabousse. La vilaine.
Marina.
Éponge-toi. Je occupée. Occupée.
Mais elle rit aussi. Lee.
Papa, tu veux que le bébé...
La suite en russe. Marina, en russe, grondant et riant en même temps. Encore des bruits d'éclaboussures. Marina fredonne une chanson de variété quelconque entendue sur KLIF. La mélodie est douce. Lee.
Maman, apporte-nous nos jouets.
Marina.
Da, da, toujours vous devez avoir joué.
Éclaboussure, bruyante. La porte de la salle de bain doit être complètement ouverte maintenant. Marina, en russe. Lee. Voix boudeuse de petit garçon.
Maman, t'as oublié notre balle en caoutchouc.
Grosse éclaboussure, le bébé hurle de plaisir. Marina.
Voilà, tous les jouets pour prince et princesse.
Rire de tous les trois. Leur gaieté me fait l'effet d'une douche froide. Lee.
Maman, apporte-nous...
Mot en russe.
On a de l'eau dans les oreilles.
Marina, riant.
Oh mon Dieu, quoi encore ?
Je suis resté longtemps sans dormir cette nuit-là, pensant à eux trois. Heureux pour une fois. Et pourquoi pas ? Le 214 West Neely n'était pas grand-chose, mais c'était déjà un cran au-dessus. Peut-être même faisait-il lit commun tous les trois, avec June enfin gaie comme un pinson et non plus morte de peur. Et le quatrième dans le lit avec eux, celui qui poussait dans le ventre de Marina. Les choses ont commencé à s'accélérer, comme elles l'avaient fait à Derry. Sauf que maintenant, la flèche du temps filait vers le 10 avril, et non plus vers le jour d'Halloween. Les notes de Hall, sur lesquelles avait reposé ma progression jusque-là, m'étaient de moins en moins utiles. En prélude à la tentative d'assassinat de Walker, celle-ci se concentrait presque exclusivement sur les faits et gestes de Lee. Or, cet hiver-là, quantité d'autres choses emplissaient leur vie, surtout celle de Marina. D'abord, elle s'était enfin fait une amie, une Quaker du nom de Ruth Payne, et pas aspirante mamie gâteau comme George Bowie.
Russophone,
avait noté Hall dans un style laconique qui ressemblait peu à celui de ses notes antérieures.
Rencontrée à une soirée, le 2 63. Marina, séparée de Lee, vit avec Payne quand assassina Kennedy.
Et puis, comme si ce n'était rien de plus qu'une réflexion après coup,
Lee cachait MC dans Garage Payne, enveloppé dans couverture.
Par MC, il entendait le fusil militaire Mannlicher Carcano, acheté par correspondance avec lequel Lee prévoyait de tuer le général Walker. J'ignore qui avait organisé la soirée où Lee et Marina avaient rencontré les Payne. J'ignore de même qui les avait présentés. Morenchild? Bowie? Probablement l'un des deux, parce qu'à cette époque, les autres émigrés évitaient les Oswald comme la peste. Le mari était un je-sais-tout cynique, l'épouse un punching ball, qui avait loupé Dieu sait combien de chances de le quitter pour de bon. Tout ce que je sais, c'est que l'issue de secours de Marina Oswald se présenta au volant d'un break Chevrolet bicolore, blanc sur rouge, par un jour de pluie de la mi-mars. Elle se rangea contre le trottoir et promena un regard dubitatif autour d'elle, comme si elle n'était pas sûre d'être à la bonne adresse. Ruth Payne était grande, bien que moins grande que Sadie, et affreusement maigre. Sa coupe de cheveux d'un châtain terne ne la flattait guère. Grande frange sur un front haut et pointe qui rebiquait derrière. Son nez éclaboussé de taches de rousseur était chaussé de lunettes sans monture. Pour moi, qui l'épiais par une fente entre mes rideaux, elle avait tout de la femme qui dédaigne la viande et manifeste contre la bombe. Et effectivement, je pense que c'était à peu près ce qu'était Ruth Payne, une nana New Age avant que ça devienne branché d'être New Age. Marina avait dû guetter son arrivée, car elle descendit l'escalier extérieur en faisant claquer ses talons, le bébé dans les bras, une couverture jetée sur la tête de June pour la protéger du crachin oblique. Ruth Payne tenta un sourire et s'exprima avec application, laissant un petit temps entre chaque mot. « Bonjour, Madame Oswald. Je suis Ruth Payne. Vous vous souvenez de moi ?»«
Da !»
répondit Marina.
« Oui !»
Puis elle ajouta quelque chose en russe. Ruth lui répondit dans la même langue, quoique de façon hésitante. Marina l'invita à entrer. J'ai attendu d'entendre le plancher craquer sous leurs pas à l'étage, puis j'ai passé mes écouteurs connectés à la lampe trafiquée. Ce qui me parvint fut une conversation moitié en anglais, moitié en russe. Marina corrigea plusieurs fois Ruth, en riant de temps en temps. J'en saisis assez pour comprendre pourquoi Ruth Payne était venue. Comme Paul Gregory, elle voulait prendre des cours de russe. Je compris autre chose dans leur rire fréquent et leur conversation de plus en plus décontractée. Elles se plaisaient mutuellement. J'en fus content pour Marina. Si je tuais Oswald après sa tentative contre le général Walker, Ruth Payne, la nana New Age, la prendrait peut-être chez elle. Je pouvais toujours l'espérer.